Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 4 juillet. Salut Germain.
Salut Antoine, bon samedi.
Bon samedi. Alors, écoute, on est-tu étonné de ça? Lincoln qui annonce la fin de ses voitures avec la disparition de la Continental.
Oui, parce que bon, hein, on le sait bien, la MKZ c'était déjà terminé. Donc il va rester le Corsair, le Nautilus, l'Aviator et le Navigator. Il n'y aura plus de voitures. Oui, on s'y attendait, mais il me restait peut-être une miette d'espoir en moi qui me disait que... en fait, j'espérais que ça reste parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup, mais c'est un des derniers bateaux américains à mon avis, l'une des dernières voitures qui rebondit deux fois quand tu roules sur un joint d'étanchéité. Puis, ça vient me chercher, veut pas. Autant on aime les sportives, autant, c'est ça. Ça vient chercher
mais
une autre corde.
Mais il n'y a personne pour acheter ces voitures-là.
Exactement, parce qu'on est rendu dans des prix assez élevés. Il n'y a plus personne qui veut, rendu dans ces prix-là, payer pour...
En fait, même Mercedes, Audi a de la misère à vendre des berlines de 80-90
000 Alors, imagine maintenant vendre une américaine de ce prix-là, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an dernier, au Canada, il s'en est vendu 177. Donc, c'est difficile dans ce temps-là de justifier à des concessionnaires d'en garder en inventaire ou même de garder des usines ouvertes pour les produire. Donc, c'est assez compliqué. Et je trouve que c'est un départ... qui est un peu sombre, hein, tu sais, elle sortir pas, c'est comme un joueur de hockey qui attend une ou deux saisons trop tard pour se retirer. Ouais. Elle se retire pas au sommet de sa gloire.
Non.
Donc,
puis c'est intéressant,
c'est
parce
malheureux.
Que...
Et elle est revenue à quelques reprises dans l'histoire, cette voiture-là. Mais, elle va être intéressante de savoir si, je sais pas, moi, dans 10 ans ou dans 15 ans, on va la ressusciter une fois de plus.
Ouais, la E-Continental.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, je devais conduire cette voiture-là comme en essai. Et Ford m'a mentionné ne pas pouvoir me prêter la voiture parce qu'on avait des retards au niveau des immatriculations.
Okay.
Et là, coup de théâtre, la voiture n'est pas sur la route.
Ben, en ce qui me concerne...
Et on la plaquera jamais.
Oui, c'est ça. De mon côté, l'essai était prévu pour un petit peu plus tard cet été. Donc,
je pense que ça n'arrivera pas.
Je pense que ça n'arrivera pas. Heureusement, je l'ai conduite l'année passée ou l'autre année.
Moi, j'avais assisté au lancement Beverly Hills de cette voiture-là, puis on avait vraiment trouvé que la formule est intéressante au niveau du design, au niveau, bien sûr, de la nomenclature, de ramener ce nom-là. Je trouvais que c'était une bonne idée pour les Américains.
Et c'était justifié, plus, là. Tu sais, on s'entend pour une Continentale, là, elle n'allait pas voler le nom qu'on lui donnait.
Exactement.
Pour moi, c'était... elle le méritait, mais les acheteurs n'étaient pas là, tout simplement.
Voilà.
Un autre véhicule qui disparaît, Antoine...
Ça, on le savait, là.
Ça, on le savait, mais ça s'est officialisé cette semaine. C'est le Dodge Journey qui, après une xième année dans le catalogue sans changement, en fait, l'année dernière, on en a eu du changement. On a retiré le V6 et le rouage intégral. C'était les seuls changements. Et corrige-moi si je me trompe, mais il n'y aura plus de véhicule à boîte automatique à quatre rapports
exactement,
sur le marché
que...
parce que c'était le dernier à offrir
il en
ça.
Restait, il en restait deux, la Yaris l'année passée et celui-là.
Ouais.
Et la Yaris était disparue. Donc,
encore là, dans la Yaris, ça se justifiait un peu mieux que dans un VUS qui peut accueillir jusqu'à 7 passagers.
Puis je me corrige, il y avait aussi la Micra.
Oui, c'est
mais
vrai.
Qui n'existe pas en 2020. Donc
le Journey va avoir été le dernier. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire du côté de chez Dodge. Parce que, tu sais, les VUS compacts, oui, c'est un VUS compact, mais de grand format. Ça reste un marché intéressant pour un constructeur automobile. Je sais que chez Jeep, là, on a le Compass, on a le Cherokee. On couvre...
Mais ce sont tous des véhicules qui se vendent de moins en moins, qui vieillissent.
Oui.
On a besoin...
Oui.
Comme chez Nissan, de renouveler la flotte. Et là c'est plus qu'urgent. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire, mais c'est certain que Chrysler a besoin de renouveau. Puis c'est un véhicule, il faut quand même le rappeler, le Journey, à son arrivée, s'est vendu énormément.
Bien sûr.
En très grand nombre. Ça a été un gros, gros, gros succès. La qualité, c'est autre chose, mais c'est un véhicule qui s'est vendu et qui a amené beaucoup d'eau au moulin chez Chrysler. Faudrait renouveler ça.
Et
c'est
prix,
pas vrai que c'est juste la marque Jeep qui peut vendre, là.
Non, Non, exactement. Et un autre point qui va être intéressant de surveiller, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire que la marque qui va produire qui va vendre des voitures pour la famille, là, des moyens de transport finalement, ça va être Chrysler. Donc, et on nous dit que Dodge, ça va être la division sport.
Ce qui explique peut-être le prochain point dont tu veux nous parler, d'ailleurs.
Ça cadre l'idée de couper le journey, mais ça justifie l'arrivée éventuelle d'un Dodge Durango SRT L4 pour 2021. Parce que on n'est pas plus fou qu'ailleurs chez Dodge. On le sait que le nom L4 est vendeur. On sait qu'il y a un marché pour des véhicules extrêmement puissants, alors que certains manufacturiers visent l'hybridation au complet de leur gamme d'ici un an, deux ans, trois ans, dix ans.
Oui, mais il y a quand même la désactivation des cylindres sur ces moteurs-là.
C'est ça.
N'est-ce pas?
Oui. On est d'accord. Bon. Donc, c'est ça. On va avoir le V8 suralimenté.
707 chevaux.
Oui, exactement. De 6 points, moteur V8, 6,2 litres dans un monstre comme le Durango. Et voilà. Bonjour, la planète.
Bon, Kia qui élimine le nom Optima et qui officialise l'arrivée de la K5 2021 parce que c'était le nom qu'on utilisait ailleurs sur d'autres marchés. Optima, c'était réservé qu'au marché nord-américain.
Voilà. Donc, on avait vu le modèle en présentation internationale il y a quelques semaines. Et là, c'était une présentation qui ciblait l'Amérique du Nord.
Ouais.
Donc, parce qu'on n'était toujours pas certain si elle allait être commercialisée ici. Mais on en a la confirmation. Moteur de base, le 4 cylindres 1,6 litres turbo-compressé.
Bon, même chose que la Sonata. Ouais,
voilà. Et moteur optionnel, lui, un 4 cylindres aussi, mais de 2,5 litres, qui est turbo-compressé également. Rouage intégral en option. Et s'il y en a qui ont écouté notre live dans la Grosse Brune cette semaine, on en a discuté en long et en large aussi. À mon avis, c'est trop peu, trop tard. Les acheteurs ont quitté le marché des berlines intermédiaires.
Surtout au Canada, un peu moins aux États-Unis. Voilà. Aux États-Unis, il y a quand même du volume. On va vendre presque autant de berlines intermédiaires que de berlines compactes.
Mais au Canada,
aux
c'est fini. Là. Il y a plus Canada, rien c'est à faire. Fini. La voiture a beau être la plus belle du monde, a beau être meilleure que jamais, a beau consommer.
Il n'y a que le nom Camry, Accord qui
surfe sur une vieille réputation, une réputation forte. Mais
regardais les chiffres de la Passat aujourd'hui.
Je veux même pas le savoir, je pense. Ça doit faire mal. Et là, cette version-là, peut-être axé sur les performances, va venir peut-être un peu cannibaliser la Stinger, qui est aussi une berline qui vise l'agrément de conduite.
Et dont l'avenir est compromis parce que ça se vend pas non plus.
C'est ça. Donc, on se retrouve avec le même problème que chez Volkswagen, là, si on veut. Chez Volkswagen, on a la Passat et l'Arteon. Et chez Kia, on va avoir la K5 et la Stinger.
Sauf que la Kia K5 va offrir le rouage intégral. Et moi, mon feeling... Ce qui n'est pas le cas du côté de la Passat. Et moi, mon feeling, c'est que Kia, pour le Canada, va probablement simplifier la gamme, va simplifier l'offre en proposant probablement que la version à moteur 1,6 turbo avec rouage intégral, alors que la version 2,5 turbo compressé serait réservée qu'au marché américain. Même chose pour la version à roue motrice avant, qui n'a pas nécessairement de pertinence ici.
C'est une stratégie qu'on avait choisi d'employer chez Nissan aussi, parce que au Canada, on a le moteur de base seulement, alors que...
Avec le rouage intégral.
Exactement. Donc,
alors que du côté des États-Unis, on a le moteur VC turbo et roue motrice avant offert en option.
On sait très bien que ça ne se serait pas vendu ici. Là.
De toute façon, même l'Altima ne se vend pas.
Ben voilà.
Donc c'est vraiment, vraiment un segment avec lequel on a beaucoup de misère au Canada. Et j'ai bien hâte de voir si Kia va se distinguer parce que, tu vois, la Sonata est arrivée depuis plusieurs mois. Et,
T'en as-tu vu une, toi?
J'en vois pas.
Voilà. C'est assez clair. Salon de Genève, qui a été annulé pour l'édition 2021, qui aurait dû se tenir en mars de l'année prochaine.
Ça veut dire que je pourrais aller au Salon de l'Auto de Québec si Québec a lieu.
Si Québec
Parce que c'est en même temps.
Oui, voilà. Donc, un sacré dilemme.
Je sais pas. Je vais au Salon de l'Auto de Québec ou je vais à Genève?
Genève.
Bon, je vais aller à Québec.
C'est ça. Donc, l'édition de cette année avait été annulée en raison, de la pandémie. C'était un dur coup, je pense, pour l'organisation qui doit déjà annuler l'édition de l'an prochain. Et on est dans une mauvaise position financière. Le salon est à vendre, là, et on espère
Ça, c'est incroyable.
Oui, c'est... Et c'est très particulier. Et donc, on espère que ce soit le Palexpo, qui est l'espèce de palais des congrès de Genève, qui rachète cet événement-là, qui est l'événement plus public de la plus grande envergure. Là.
En fait, c'est le plus beau salon automobile au monde,
oui,
où tous les constructeurs sont présents, parce qu'on sait que, qu'importe le salon que vous regardez, là, Francfort, Paris, Tokyo, oui, il y a plusieurs constructeurs qui délaissent le salon. Alors souvent, on va visiter, moi je suis allé à Tokyo l'automne dernier, c'était vide, il n'y avait rien. Oui. C'était insignifiant, là.
Alors, donc, oui, pour l'automobile, c'est un salon qui est
mais
important.
Mais Genève, tout le monde
mais
y est.
Pour la Suisse entière, c'est un événement très, très, très important. Donc, ça va être
et
à
et pour
suivre.
La France aussi, parce qu'on est collé sur la France.
Oui, tout à fait. Donc, là, il y a plein de points d'interrogation pour les prochains salons, qui sont ouais, ceux de Los Angeles, qui normalement devraient avoir lieu en novembre, pour celui de Montréal, qui devrait avoir lieu en janvier. Donc, c'est plein de questionnements.
Exactement.
Et aucune réponse.
Bon, pas le choix de parler du F-150 2021 oui, qu'on a dévoilé à
peu
la fin
temps,
de la semaine dernière.
Oui, exactement, juste avant l'enregistrement finalement
voilà,
de l'émission.
Puis c'est un camion, moi je trouve que ce qu'on a apporté comme retouche, comme modernisation à l'intérieur, c'est vraiment réussi, mais c'est pas un camion flambant neuf, là. C'est une non, timide évolution de l'ancien.
Exactement. Et ben, je suis content qu'on ne l'ait pas enlaidi, là, parce
non,
que
non,
ça peut
être... Il y a une belle gueule.
Ça peut être un piège un peu trop facile. Donc, on va avoir 6 moteurs hein, pour la nouvelle année. Donc, c'est le même alignement que pour 2020, mais on rajoute un V6 biturbo hybride pour lequel on n'a dévoilé aucune spécification.
Ben, ce sont les mêmes...
Qui est un copier-coller de l'Explorer hybride, un autre véhicule fantôme.
Un autre véhicule fantôme qu'on ne retrouve... Ben, on dit que les concessionnaires commencent à en recevoir quelques-uns, mais... c'est pas évident. C'est pas. J'ai pas l'impression. On va faire beaucoup de tapage médiatique avec le fait qu'on offre un hybride, mais en tout cas, moi, c'est pas ce qu'on veut vendre.
Non, exactement. Hein? Et là, on a une panoplie d'accessoires, là, rapidement. On a le haillon qui peut se transformer en Bansi. Les sièges peuvent se rabattre pour permettre au col bleu de faire la sieste. on a une génératrice dans la boîte à l'arrière. Bref, un paquet de gadgets.
Ce que tu es en train de me dire, c'est que la ville de Montréal devrait en acheter plusieurs.
Ben oui, pour les bosser bien rapidement, parce que c'est très courant de voir des camions rouges de la ville de Montréal bosser, des camions pas si vieux que ça.
Mais je te mentionne que de l'aluminium, ça déchire, ça bosse pas tant que ça.
En tout cas, ils ont des rames aussi, là,
ouais,
et des véhicules pas si vieux que ça, qui sont bossés à des endroits
démolis,
où tu te demandes comment c'est possible de bosser ce bout de tôle-là.
Ouais.
En tout cas.
Voilà. OK, on parle des véhicules de la semaine. J'ai pas le choix de te parler de la Polestar.
Oui.
Je pense que ceux qui me suivent sur ma page Facebook ou qui ont écouté Salut Bonjour ont vu que je conduisais depuis quelques jours la Polestar 1. Donc, une voiture d'exception, unique au Canada pour l'instant. Un coupé sport de 200 000 $ qui est une hybride enfichable qui offre à peu près 120 km d'autonomie.
Voiture qui fait tourner les têtes.
120
là.
km d'autonomie, 100% électrique. Et
oui,
après ça, évidemment, on tombe sur le moteur à essence.
Oui.
Qui est le 2 litres turbo et surcompressé qu'on retrouve ailleurs chez Volvo. Puissance maximale combinée à 600 chevaux, 737 livres-pieds de couple. On a parlé brièvement avec Marc tantôt. Les performances ne te donnent pas l'impression d'avoir 600 chevaux. C'est très rapide comme voiture, mais ce n'est pas une sportive dans l'âme. C'est vraiment un coupé élégant, très agréable à conduire avec des sièges qui sont d'un confort exceptionnel.
Qui sont différents à l'avant et à l'arrière. Hein,
ben en fait, au niveau des teintes,
oui.
J'ai bien aimé.
Ça choque l'œil un peu, mais c'est audacieux.
Moi, voilà, j'ai bien aimé. Et j'ai pas le choix d'admettre que le plus grand plaisir de conduire cette voiture-là, c'est qu'il n'y a personne qui sait ce que c'est.
Oui,
et c'est une voiture sobre.
C'est une très belle voiture.
Ouais.
C'est une voiture qui ressemble, bon, peut-être là, certains airs de série 4, là, mais qui ressemble à rien d'autre, qui a un agencement de couleurs avec les étriers, ça saute aux yeux, mais personne ne sait ce que c'est. C'est pas ostentatoire.
Il n'y a pas de logo.
Non, exactement.
Voilà. Donc, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de badge, on ne sait pas ce que c'est.
C'est très mystérieux. Là.
Et le plaisir de conduire un véhicule comme celui-là, c'est quand même assez intéressant. Bon, c'est la facture qui est moins intéressante parce qu'évidemment, c'est difficile de justifier son prix de 200 000 $, 197 000 $ pour être plus exact, plus la peinture mort que vous pourrez prendre en option pour 7 500 $.
Non, merci.
Mais il faut savoir que cette voiture-là, on ne la fabrique qu'à 1 500 unités sur 3 ans, donc 500 unités par année pour le monde entier.
Ouais.
À peine 10-12 unités traverseront les frontières canadiennes par année, donc ça sera une voiture extrêmement rare au Canada. Et j'ai bien hâte de
donc
voir...
Donc, on va continuer de se tourner quand on va en voir une, là.
Absolument, absolument. Et moi, je pense que c'est la seule fois de ma vie que j'aurais eu la chance de conduire cette voiture-là. Est-ce que ça deviendra une voiture de collection? Absolument, parce que c'est le porte-étendard de la marque. C'est l'arrivée de la marque Polestar au Canada. Il faut quand même le mentionner.
Tu sais, des nouvelles marques, ça n'arrive pas à toutes les semaines, là.
Non, ça n'arrive pas à toutes les semaines. Puis, il y en a probablement qui vont partir prochainement aussi. Fait que,
oui.
Bon, les choses changent. Mais c'est une voiture qui m'a vraiment impressionné. Il faut aussi savoir qu'on annoncera dans les prochains jours l'arrivée d'une concession Polestar à Montréal qui sera sur la rue René-Lévesque à Montréal.
Ouais, en plein centre-ville.
Donc, formule boutique, achat en ligne, magasinage en ligne. On vient vous montrer la voiture à domicile. Vous pouvez bien sûr vous déplacer en boutique, mais il n'y aura pas d'inventaire de véhicules chez les concessionnaires Polestar. Non. L'inventaire en entier sera stationné du côté d'Halifax et on vous la livrera chez vous lorsque vous aurez choisi la voiture.
Il va y avoir la modèle 2 aussi qui va arriver, qui, elle, va avoir un prix un petit peu plus... Ça va rester une voiture qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais à partir de 69 000 $ ça demeure plus abordable.
Donc rival direct de la Tesla Model 3, mais en version 4 roues motrices. Et avec un haillon. Donc, voiture qui sera de série avec 4 roues motrices, 400 chevaux, 400 km d'autonomie annoncée aussi approximativement. Donc, 78 kWh au niveau des batteries. C'est assez intéressant. J'ai bien hâte de conduire cette voiture-là, que j'aurai la chance de conduire quelque part au début du mois d'août. Si évidemment...
La planète nous le permet.
La planète nous le permet parce que il me faudra me déplacer pour aller en faire l'essai et j'ai bien hâte. Mais ce que je peux te dire de la Polestar, c'est que de la Polestar 1, c'est que c'est une voiture vraiment exceptionnelle. Et j'ai oublié de vous mentionner un truc aussi. Elle est 100% en fibre de carbone, châssis et carrosserie. Donc, ça peut peut-être justifier un peu sa facture qui est quand même surréaliste.
Et après la pause, on reçoit Marc Lachapelle qui va nous parler de la Porsche 911 Turbo S 2021.
Qui, elle, est encore plus rapide.